Joël, Nadia et Jean-Michel, format A3.
L'hypnose, on en a déjà parlé dans format A3, ça permet de régler beaucoup de problèmes, par exemple de dépendance.
Oui, mais l'hypnose, c'est quelqu'un qui vous met dans cet état et surtout vous devez lui faire confiance. L'auto-hypnose, c'est différent.
Et pour en parler, nous recevons Jessica Slango, hypnothérapeute. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors l'hypnose, l'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'auto-hypnose, c'est la même chose que l'hypnose dans le sens où c'est une capacité naturelle du cerveau de se mettre dans cet état. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours sans savoir que c'est de l'auto-hypnose. Et puis c'est l'auto-hypnose, la différence, c'est qu'on va vraiment utiliser notre potentiel intérieur et notre pouvoir intérieur pour changer des choses, changer des comportements, puis atteindre des objectifs qu'on a envie de vivre.
C'est un avantage particulier de pratiquer parfois l'auto-hypnose. Est-ce qu'on fait en auto-hypnose des choses qu'on ne fait pas en hypnose, j'allais dire, traditionnelle ?
Alors, l'avantage de l'auto-hypnose, c'est que si vous êtes tout seul et puis que vous devez parler en public, par exemple, puis que c'est quelque chose qui vous angoisse, eh bien, vous pouvez vous faire une mini-séance tout seul et puis après avoir les ressources pour pouvoir parler en public avec confiance, par exemple, et éloquence. Que si vous êtes dépendant du thérapeute, eh bien, vous devez l'appeler et faire la séance par téléphone. Ça peut engendrer des problèmes. Donc ça, c'est un peu l'avantage de pouvoir le faire tout seul. On le fait quand on veut.
Est-ce qu'on peut faire de l'hypnose par téléphone ?
Oh oui, on peut faire par FaceTime, on peut faire par téléphone, on peut faire, oui, bien sûr, il y a des gens qui font ça par ordinateur, absolument, oui.
Vous l'avez dit, l'auto-hypnose, c'est aussi aller dans son intérieur, c'est une introspection.
Alors, c'est une introspection, clairement, dans la première partie de l'auto-hypnose, quand on fait l'induction hypnotique et puis qu'on va aller à l'intérieur de soi-même et voir quelles sont nos sensations, qu'est-ce qu'on vit et puis les utiliser pour la détente. Et la différence, c'est qu'on va se faire des suggestions et ces suggestions vont nous permettre d'atteindre un objectif. Ça va être la suite, en fait. On va un peu plus loin mais qu'une simple introspection. Mais on peut faire aussi que l'introspection si on a envie. Et puis après, on peut se faire plaisir en allant modifier, changer des comportements, etc.
Ça veut dire aussi qu'on peut visiter des lieux de l'inconscient qu'on ne connaissait pas ?
Alors,
parce que moi, ça me ferait peur pour moi.
C'est vrai.
Et vous n'êtes pas le seul. Hein. Oh.
Alors, en même temps, des lieux de son inconscient qu'on ne connaissait pas, est-ce qu'il y a des lieux de votre inconscient que vous connaissez ? Est-ce que vous pouvez me dire, ben oui, moi je vais de là ou là ou là ? Il faut imaginer l'inconscient, moi j'aime bien l'expliquer quand je travaille avec les enfants, que c'est comme un gros stock de Lego. Imaginez le plus gros stock de Lego au monde, quoi. Et vous prenez un ascenseur, vous descendez, vous allez trouver immédiatement la pièce dont vous avez besoin. Et vous pouvez remonter et puis construire votre fusée, par exemple. Et bien là, en fait, ce grand stock, c'est tout le reste, c'est toutes des ressources, c'est des forces, c'est des comportements qu'on a su utiliser, etc. Donc, on va aller surtout chercher des comportements et des ressources qu'on ne savait pas qu'on avait, qu'on a oublié qu'on avait. Parce qu'à la base, on a tous ces ressources, on a tous les mêmes forces, les mêmes capacités. Et en fait, on va s'étonner à se dire, ah ben tiens, je peux avoir confiance en moi. Ah ben, parce que j'avais eu ça une fois à l'époque. Et on peut le revivre. Donc, c'est un gros stock de toutes les capacités qu'on ne sait même plus qu'on a. Ça, c'est possible.
L'auto-hypnose, par rapport à l'hypnose traditionnelle, on va dire, c'est ouvert à tout le monde, enfin tout le monde peut y arriver, parce que si tout le monde réussit à faire de l'auto-hypnose, c'est la fin de l'hypnothérapie pour les hypnothérapeutes, non ?
Alors, il faut... Tout à fait, tout le monde peut le faire, absolument. Mais c'est encore une fois, une capacité naturelle du cerveau, donc tout le monde peut le faire, il faut la volonté. Maintenant, il faut quand même être réaliste. L'auto-hypnose... Il y a beaucoup de gens qui ont déjà été acheter des livres et puis qui les ont lus et puis qui n'ont rien compris et qui n'ont pas réussi à le faire. Donc là, moi, ce que je conseille de toute façon, c'est en général, on va chez un thérapeute, on va faire une séance, on va travailler un objectif, hein, travailler des insomnies, hein, on peut travailler des problèmes de relations de couple, on peut travailler tout un tas de choses. Et l'idée après, c'est qu'avec le thérapeute, il va vous donner des exercices que vous allez pouvoir faire. Il y a des gens qui vont réussir en prenant un livre ou en regardant des trucs sur YouTube, qui vont réussir à le faire, mais ils sont peu. Monsieur et madame, tout le monde qui a vraiment une problématique et qui est dans son émotionnel difficile, il va lire son livre, il ne va pas comprendre grand-chose. Donc il y a des cours qui se donnent, et puis ce n'est pas compliqué, le cours qui se donne en 5 fois, on ancre déjà l'état, donc les personnes peuvent vraiment le reproduire à la maison, et à partir de là, pourront le faire. Mais c'est pas... Enfin, moi-même, je suis la première à ne pas avoir réussi à le faire en lisant un livre, quoi. Donc... à voir. Mais je conseille plutôt d'essayer avec quelqu'un d'abord. Et puis après, on peut facilement se s'auto-hypnotiser, oui. Pour des petites choses, encore des petites choses. Hein, parce que des grandes problématiques comme un viol ou des choses qui sont plus terribles, la personne qui va devoir s'auto-hypnotiser, ça risque d'être un peu difficile quand même.
Jamais 203. Format A3.
Et on s'intéresse ce matin à l'auto-hypnose.
Oui, et notre invitée est Jessica Slongo, et nous, on ne dort pas encore.
Alors, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, mais comment on entre nous-mêmes dans un état d'hypnose?
Alors, en fait, dans les livres que vous pourrez lire, ou si vous allez à un cours ou chez un thérapeute, vous allez apprendre à vous parler. On va apprendre le langage hypnotique, qui consiste à parler d'une voix plus douce, un peu plus doucement. On va prendre des respirations et on va se parler, comment on va se détendre, les épaules, le corps, etc. Et en fait, on va ouvrir la porte par ce dialogue de la visualisation et le ressenti de nos sensations. On va ouvrir la porte à notre inconscient. On va créer un chemin entre le conscient et l'inconscient par ce dialogue qui dure pas long, hein, qui peut durer une minute. Des fois, c'est avec l'entraînement, c'est juste une image qui peut nous mettre dans cette sensation de transhypnotique. Donc, on va vraiment apprendre à faire ça. Et dans les livres, on peut l'apprendre. Il y a déjà. Puis après, c'est de la répétition. C'est comme un muscle, ça se travaille. Hein, c'est pas une fois, paf, par magie, on le fait. Donc voilà, on va se parler et on va utiliser ce que j'appelle ce qui est appelé couramment le VACOG. Ça veut dire des visualisations, des images, des sensations et des mots et s'écouter. Voilà. Et c'est ce qui va permettre d'entrer en transe hypnotique.
Et comment on en sort?
On n'en sort pas. Le but, c'est de rester. Non, un peu de la même manière. On va dans tous les audios. Si vous allez écouter des audios, ils vont vous dire souvent et maintenant vous allez revenir ici et maintenant. Et le corps sait automatiquement, il revient. Et puis dans les cours, par exemple, moi j'entraîne avec la respiration. On prend 3 profondes inspirations. À la première, le corps commence à se réveiller. La deuxième, on a envie de s'étirer. La troisième, on ouvre les yeux. Et si vraiment quelqu'un reste un petit peu, ben moi je le laisse parce que c'est qu'il y est très bien, et il va ressortir en redisant une fois, en reprenant une fois une grosse inspiration, on en ressort toujours.
Mais est-ce que ça peut être un petit peu dangereux? Est-ce qu'on peut rester bloqué?
Alors, le danger, il n'est pas vraiment pour celui qui le pratique. Alors bien sûr, ne pratiquez pas de l'auto-hypnose au volant. Ça, on est d'accord, parce que si ça marche vraiment bien, si vous êtes suggestible, et puis ça peut être dangereux. Sinon, non, ça ne sera pas dangereux. Est-ce que d'aller au spa et d'y être bien peut être dangereux? Non, clairement pas. Le danger, c'est qu'il y a du changement. C'est que quand on commence à travailler sur soi, on change. Et des fois, ce changement, à nous-mêmes, il nous plaît, mais pas aux autres. Donc ça, c'est, je dirais, un peu le seul danger que vous pouvez vivre en faisant une thérapie ou en faisant un travail sur vous. Mais non, au contraire. L'auto-hypnose, quand on est en transhypnotique, juste la transhypnotique, je ne parle même pas encore des suggestions, vous permet de régénérer le corps. On dit que 15 minutes de transhypnotique, alors de méditation aussi, hein, mais moi ici je l'appelle la transhypnotique, régénère le corps comme si on avait dormi 1h30. Donc ça fait que du bien parce que le mental est tellement apaisé que le corps peut vraiment concrètement se régénérer.
Alors ça peut servir à se détendre, ça peut servir à quoi d'autre? Je ne sais pas, quelqu'un qui a des soucis de maux de tête, de migraines récurrents, quelqu'un qui a une dépendance au tabac par exemple, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler en auto-hypnose?
Alors, pas tout seul, moi la gestion du poids, les addictions, c'est deux choses qui sont très 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 difficiles à travailler déjà même en thérapie. Donc imaginez seul à la maison. Par contre, justement, en allant voir un thérapeute et puis qui vous donne des exercices, vous pourrez bien les faire à la maison, clairement. Maintenant, l'auto-hypnose, ça sert aux sportifs. Se focaliser, se faire des suggestions pour gagner. Ça peut être pour de la grossesse, vivre sa naissance sous auto-hypnose et puis pouvoir être en lien avec son bébé et puis vous aider lors de l'accouchement, par exemple, par des visualisations qui aide. Ça peut être pour les enfants, avec la métaphore. Il y a plein de belles choses aussi. Et puis, on peut travailler, effectivement, pour les gens qui ont le cancer, par exemple. Faire des méditations, des auto-hypnoses pour combattre les métastases. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont aussi très, très belles, hein.
Vous l'avez dit un tout petit peu tout à l'heure, vous avez parlé de méditation. Finalement, quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation?
Alors la méditation, c'est, on va se focaliser sur une seule chose. Par exemple, on va méditer sur une bougie, on va méditer sur une phrase, on va méditer sur un mantra. Et l'idée, c'est d'apaiser complètement son mental. Et donc là, c'est à peu près identique à l'induction hypnotique. On va aussi focaliser son attention sur les sensations de son corps. On va aussi apaiser son mental et apaiser son corps. La différence va être la suggestion. Dans, en auto-hypnose, on va aller suggérer par des visualisations une atteinte d'objectif ou une modification, ce qu'on aimerait vivre, en fait. En fait, vous prenez une baguette magique et vous dites, moi, je veux vivre ça. Et dans notre tête, on a tous les, dans notre tête, on a tous les droits. Il n'y a personne qui peut vous dire, le tutu rose et puis la baguette magique, c'est interdit. Donc, ça va être la différence, elle va être là. Ça va être les suggestions que vous allez vous faire pour atteindre un objectif.
Le tutu rose, Jean-Michel, je vous vois bien avec...
Non, mais une armure de chevalier.
Vous ne m'avez jamais vu avec et vous seriez extrêmement surpris. Je dirais même que c'est hypnotisant.
J'ai deux photos.